Voilà, je vous propose de lire un récit dans le premier livre des rois. Alors, dans la traduction de Jérusalem, sous la direction de l'école biblique de Jérusalem, parce que cette version, elle me plaît assez, je l'ai suivie pendant les passages qu'a proposé Gilles. Elle apporte certaines nuances sur des mots qui sont semblables dans nos traductions classiques. Voilà. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, ça, c'est parce que le curseur n'est pas dans la fenêtre. Voilà. Donc, c'est dans le premier livre des rois, au chapitre 17, les versets 1 à 4. Élie, le Tishbite, un des habitants de Galaad, dit à Akab, par Yahvé, vivant, le Dieu d'Israël que je sers, donc Akab c'était le roi d'Israël, par Yahvé vivant, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf à mon commandement. La parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. Mais il arriva au bout d'un certain temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahvé lui fut adressée en ces termes, « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voici que j'ordonne, là-bas, à une veuve de te donner à manger. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit, « Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria, « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par Yahvé vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je suis à ramasser deux bouts de bois, je vais préparer cela pour moi, mon fils, nous mangerons et nous mourrons. » Mais Élie lui dit, « Ne crains rien, va faire comme tu dis, seulement prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. » Car ainsi a parlé Yahvé, Dieu d'Israël, jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé enverra la pluie sur la face de la terre. Elle alla et fit comme avait dit Élie, et ils mangèrent, elle, lui et sa maison, pendant longtemps. La jarre de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Yahvé avait dite par le ministère. Un peu plus loin, au chapitre 18, les versets 1 à 5, « Il se passa longtemps, et la parole de Yahvé fut adressée à Élie, la troisième année, en ces termes. « Va te montrer à Akab, je vais envoyer la pluie sur la face de la terre. » Et il y partit pour se montrer à Akab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie, Akab fit appeler Obadiahu, ou Abdias dans d'autres traductions, le maître du palais. Cet Abdias craignait beaucoup Yahvé. Lorsque Jézabel massacra les prophètes de Yahvé, il prit 100 prophètes et les cacha 50 à la fois dans une grotte, où il les ravitaillait de pain et d'eau. Et Akab dit à Obadiahu, « Va dans le pays, vers toutes les sources et tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie chevaux et mulets, et ne pas abattre de bétail. » Bon, j'enlève cette diapositive. Bon, alors, vous avez deviné peut-être un peu le thème. Ce qui m'a fait m'intéresser à ce passage, c'est la sécheresse. Alors, bon, j'ai constaté après coup que j'ai un peu mélangé deux choses, famine et sécheresse. Je vais peut-être manquer de courage pour reprendre mes réflexions, donc je vous verrai après par la suite. Donc pardonnez-moi un peu ce raccourci, mais il est vrai que les deux sont extrêmement liés. Le lien est malheureusement bien fréquent entre les deux. Et quand on connaît le lien entre l'eau et l'agriculture, surtout comme nous qui nous sommes réfugiés à la campagne, on comprend beaucoup plus qu'en ville le fait qu'il y ait la sécheresse et ensuite la famine. Donc c'est plus concret à appréhender si on pense un peu aux deux. Donc c'est vrai que la sécheresse, alors dans mon esprit, c'était synonyme de punition. Je dirais que c'est plutôt synonyme d'épreuve. Et on peut se demander qui reste fidèle, humble et soumis dans de telles situations. Donc on a vu à travers ce récit qu'il y a des personnages fidèles. Alors bien sûr, il y a Élie, il y a également la veuve, qui simplement est factuelle, comme on dit, elle dit les choses, mais sans discuter finalement. Et ensuite, elle obéit, ce qui est déjà parfois un problème même pour nous, ou pour beaucoup. Et il y a Abdias aussi, ce fameux chef, donc soumis à l'administration, très proche du roi, puisqu'il s'occupait de sa maison, et qui a eu du courage pour protéger 100 prophètes à une époque où la femme du roi, cette fameuse Jézabel dont on parle même dans des textes français, a cherché à tuer les serviteurs de Dieu. Alors il y existe aussi d'autres histoires de sécheresse ou de famine qui me sont revenues à mes mémoires. Donc je vais en citer deux un peu pour illustrer ce passage. Alors tout d'abord, vous connaissez bien sûr l'histoire des 7 années d'opulence en Égypte, puis les 7 années, ce qu'on appelle de vaches maigres, hein, c'est devenu une expression française. Et donc Joseph, ce fameux fils de Jacob, qui avait été vendu comme esclave par ses frères, il reçoit de Dieu le sens des cauchemars du pharaon de l'époque, et il gère ses 14 années pour son compte. Alors cette année de famine, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 semaines comme à peu près ce qu'on a vécu les 2 mois que nous venons de vivre avec une certaine sécheresse, qui met en péril les produits agricoles. Hein. Quand vous circulez, vous pouvez regarder les arbres, vous reconnaissez pas vous ne pouvez plus distinguer entre un champ de blé qui a été coupé et un champ d'herbe qui normalement devrait être vert. Donc 7 jours, 7 semaines, 7 mois, non, c'était 7 années à l'époque de dans ce qui s'est passé en Égypte avec Joseph. Et c'est vrai que nous nous demandons souvent pourquoi. C'est vrai qu'on peut, devant de tels événements dans la vie. Alors c'est vrai que cette question, le fameux pourquoi, m'a servi aussi de réflexion. Ça peut nous aider. Pour ne pas passer à côté de détails dans un récit comme de l'eau sur la plume d'un canard. Donc en Égypte, on voit quand même comment Dieu a tout dirigé pour Joseph, mais sur le long terme. Les conséquences ont été très différentes, bien sûr, selon la position des personnages. Le peuple, il s'est retrouvé esclave du pharaon. C'est assez bizarre d'ailleurs, en donnant d'abord leur argent, puis leur bétail, puis leur vie avec leur terre. C'est-à-dire qu'ils sont devenus esclaves. Donc ça a été vraiment une escalade. Donc on lit, si je ne me suis pas trompé dans mes diapositives, dans Genèse chapitre 47, les versets 14, 16 et 19, que j'ai pris séparément, Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'on achetait. Et il livra cet argent au palais. Au verset 16, Joseph leur dit « Livrez vos troupeaux et je vous donnerai du pain ». S'il n'y a plus d'argent. Et au verset 19, là, c'est un peu spécial, ce sont les gens eux-mêmes qui font cette avance. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terroir ? Acquiert donc nos personnes et notre terroir pour du pain. Et nous serons avec notre terroir les serfs, les esclaves de Pharaon. Mais donne-nous de quoi semer pour que nous restions en vie et que nous ne mourions pas et que notre terre ne soit pas désolée. Voilà, donc on peut se demander quelle est notre position, nous, devant Dieu. N'avons-nous pas reçu plus que de la nourriture? Et justement, comme on l'a rappelé, comme on le rappelle au culte, en donnant notre vie et notre cœur à Jésus. Alors, après le peuple égyptien, on peut voir que le pharaon, on s'est demandé s'il a compris la leçon que donnait Dieu. Et posons-nous la question pour nous-mêmes. Et surtout, est-ce que ses descendants s'en sont rappelés? Et alors on voit que non, quand on se rappelle ce qu'ont subi les Israélites après que plusieurs dizaines d'années en s'étant multipliés. Et Joseph, Ben Joseph, bien sûr, c'est un des personnages les plus, c'est une des plus belles histoires de l'Ancien Testament. Je pense que même les jeunes le connaissent. Et il a témoigné vraiment que Dieu change le mal en bien. Alors c'est vrai qu'ensuite, ma curiosité, puis la sécheresse que nous avons subie, m'a poussé à regarder un documentaire. Je vous invite à le faire si vous le retrouvez, sur ce qui s'est passé au centre des États-Unis d'Amérique dans les années 30. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ça s'appelle le Dust Bowl, en français le bassin de poussière. Il faut se rendre compte qu'entre 1930 et 1940, il y a eu un phénomène de sécheresse qui a bouleversé une région centrale, à cheval principalement sur le Texas, l'Oklahoma, le Kansas. Ce sont des tempêtes de poussière qui, dues à une érosion aérienne de terres trop cultivées, ont enseveli voitures et maisons. Les chrétiens, alors ce qu'il y a aussi, bon, vous connaissez un peu la situation spirituelle ou en tout cas la présence de nombreux chrétiens aux USA, et les chrétiens priaient, mais la pluie ne venait pas. Et les hommes ont dû reconnaître, on le voit dans ces documentaires, que la soif d'enrichissement par des labours intensifs avant, sur une terre qui ne s'y prêtait absolument pas, et durant des années très pluvieuses, a été une des causes, hein, ce n'est pas la seule, mais était quand même une des causes de cette catastrophe écologique. Alors, mon pourquoi, moi, c'était un peu comme ces chrétiens, pourquoi ne répondaient-ils pas aux prières? Je vais vous montrer juste trois photos pour vous rendre compte de ce que ça a été quand même. Il faut savoir que les premières années, enfin, ça n'a pas été toutes les années comme ça, mais les premières années, il y avait une dizaine de tempêtes comme cela, et certaines années, il y en a eu jusqu'à 40 par an. Donc les gens avaient un vent violent contre eux, devaient se réfugier, et ça donnait ça. Donc c'était pas but de pipi de chat, quoi. Ça a vraiment enseveli certaines maisons. Et alors, sans le citer plus en détail, beaucoup d'enfants ont souffert de pneumonie et beaucoup de gens sont morts de maladies pulmonaires. Voilà. Et c'est vrai qu'en trouvant ce passage dans Ésaïe 50, les versets 2 à 3, j'ai associé un peu cette... C'est Dieu qui parle, qui dit « Par ma menace, je dessèche la mer, je change les fleuves en désert, les poissons s'y corrompent faute d'eau, ils meurent de soif, je revais les cieux de noirceur, je leur mets un sac comme vêtement. » Et c'est vraiment cette noirceur qu'ont vécu ces Américains quand une telle masse de poussière arrivait sur eux. Ils ne pouvaient pas voir à quelques mètres, ils ne pouvaient plus se déplacer, des gens se perdaient simplement pour retourner chez eux. Voilà donc... ces 40 tempêtes, ils les ont vécues. Alors, les hommes, enfin, je pense toujours à cette histoire d'Akab, d'Élie, de Joseph. Comment, pourquoi les hommes, pourquoi cela ne nous sert-il pas de leçon? Et est-ce que ces Américains, bon, on n'est pas mieux placés, hein, en ont tiré des leçons? Pas si sûr que cela. On sait qu'en ce moment, alors pas qu'à cet endroit-là, mais à plusieurs endroits dans le monde, on est en train d'épuiser des nappes souterraines, appelées fossiles, des eaux fossiles, parce qu'elles ont mis des siècles, voire des dizaines de milliers d'années à se former pour arroser en surface. Et on est encore en train de préparer une catastrophe, puisqu'un jour, quand il n'y aura plus d'eau, ben on ne pourra plus produire le maïs ou d'autres voilà. Alors, les choses qui m'ont surpris aussi, parce que là, je vais revenir peut-être un peu au texte que j'ai lu au départ, c'est pourquoi Élie a parlé de cette manière-là. Je ne sais pas si vous avez entendu quand j'ai lu les versets, je vous réaffiche les versets 1 à 4 du chapitre 17. Élie se présente devant le roi et puis lui dit il n'y aura ni rosée ni pluie sauf à mon commandement. C'est là où la traduction est intéressante, c'est pas à ma parole, c'est à mon commandement. Il prend une certaine autorité. Alors qu'on voit dans les autres versets qu'on a lus, que je ne vais pas réafficher, c'est Dieu qui parle, j'ordonne. Et voilà, pourquoi? Alors bon, il est vrai que en me posant ces pourquoi, je l'ai dit, il faut que je redescende à mon niveau, il faut quand même rester humble, surtout quand on connaît toute l'histoire d'Élie. Qui a pu prétendre à une telle intimité avec Dieu? Qui a été élevé au ciel sans passer par la mort, donc sans résurrection? Parfois, on peut confondre en disant ben, « Élie a été ressuscité ». Non, c'est Jésus qui a été ressuscité, lui seul. Et si des personnes ont été ressuscitées lorsque Jésus est mort, ils sont morts ensuite. Voilà, Jésus est le seul ressuscité pour l'instant. Mais il est monté au ciel sans passer par la mort. Et on se rappelle aussi l'histoire que vous devez connaître de la transfiguration. Qui était présent avec Jésus quand il s'est révélé rayonnant à ses trois meilleurs disciples, Moïse et Élie. Moïse qui est passé par la mort et Élie qui est allé au ciel directement. Alors pourquoi Élie parle-t-il comme cela? Là, ce sont des hypothèses. Hein. Souhaitait-il protéger sa vie face au roi en disant « si c'est moi qui dois parler, ne me tue pas, sinon personne ne pourra faire venir la pluie ». Bon, c'est peut-être un peu léger. Et ensuite, je ne la réaffiche pas, je crois, mais ensuite, quand il n'y a plus d'eau dans le torrent, pourquoi Élie ne demande pas à Dieu d'envoyer la pluie? Vous voyez, il part chez la veuve. Voilà. Je crois qu'il montrait d'abord son écoute de Dieu, sa soumission, et cette proximité où finalement, dans ce texte, on dit c'est Dieu qui parle, mais c'est Élie. Il y a vraiment une coordination, enfin une intimité à ce niveau-là. Alors, il est vrai que il y a quelqu'un qui n'a pas posé de pourquoi dans le récit, c'est la veuve. On voit qu'Élie demande à boire, et puis la veuve obéit. Alors je me suis aussi demandé pourquoi Dieu envoie Élie en lui disant « Je vais te nourrir, je vais te donner à manger ». Puis Élie arrive, il demande à boire. Bon, boire à manger, on sait quelque part que c'est quand même très proche. Et je me suis demandé pourquoi. On peut sentir quand même, là j'exagère un peu, hein, on peut sentir quand même qu'il y a une certaine douceur, ou je dirais une bonne psychologie d'Élie, parce qu'il a fait d'abord une demande humaine et réaliste, on demande d'abord à boire, et par cette demande faible, on voit que la veuve a accepté. Et puis elle part, et là, attends, amène-moi quand même quelque chose à manger avec. De l'humour, je ne sais pas. Je pense de la sagesse et de la finesse de sa part, parce qu'il a vu cette femme, peut-être que Dieu lui avait révélé son état. Il y a toujours des petites subtilités dans les récits. Je ne dis pas que c'est la vérité, ce que je viens de dire, mais voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'Élie était un homme de sagesse et un homme doué pour communiquer. Alors c'est vrai que les pourquoi ne mènent à rien. J'ai rajouté une lecture parce que j'ai pensé à un autre texte qui est dans Luc. Donc je ne vais pas l'afficher si je trouve ma page. Dans Luc chapitre 13, les versets 1 à 4 qui répondent un peu à mes pourquoi. En ce même temps, survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur victime. Prenant la parole, il leur dit, pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent de plus grands prêcheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de la même manière. Donc c'est vrai que nous, pourquoi non, pas de réponse, mais on peut poser quand même la question à Dieu, et Dieu nous écoute et nous prépare parfois des réponses bien différentes. Donc c'est vrai que le sens de ces sécheresses peut être différent. J'ai peut-être un peu généralisé en faisant des parallèles. Malgré nos connaissances, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout expliquer de ce qui s'est passé en Égypte, de ce qui s'est passé aux États-Unis, de ce qui s'est passé avec Élie. Et Dieu agit comme il l'entend, comme il le veut, mais il n'agit pas de la même manière, peut-être à une période très éloignée qu'aujourd'hui. Il a agi peut-être différemment aussi quand Jésus était sur terre. Alors il me reste la question, plus un pourquoi, c'est qui dirige ces événements? Et c'est des fois le doute qui nous arrive, qui les permet? Et vraiment, j'ai besoin, moi, de me rappeler que Dieu a créé des lois dans la nature. Et parfois, on est étonné de voir qu'il laisse simplement ces lois se réaliser. Je dirais que malheureusement, la famine est une conséquence de la sécheresse, mais il y en a d'autres où Dieu agit simplement parce qu'il a fait une création merveilleuse. J'ai parlé hier avec Chantal Cour, dont certains connaissent. on parlait un peu de miracles, et je disais que parfois, moi, j'ai eu des petites blessures ou des risques, et sans m'en rendre compte, quelques temps ou quelques mois après, tout avait disparu. Parce que Dieu, finalement, à travers la richesse de sa création, avait préparé la guérison. Voilà, et c'est vraiment aussi Dieu qui a la connaissance de l'avenir. C'est-à-dire qu'on a une sécheresse de 7 semaines, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a aussi une autre expression que j'ai trouvée dans un petit DVD, c'est que l'avenir, il n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Il appartient vraiment à Dieu. Et on ne sait pas ce qui nous attend, sauf ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Voilà, mais simplement, quelle est notre attitude ? S'il faut se demander, comme le Pharaon à l'époque, comme Akab, comme nous aujourd'hui, comme les journalistes nous le présentent, quelle est notre attitude par rapport devant ce que Dieu permet ? Quelle est notre réaction ? Et quelles sont nos convictions ? Est-ce que nous restons fermement sur le roc du Christ ? Et on peut se poser la question pour notre Église et aussi pour notre Église. Et on reconnaît aussi que, justement, ce qui nous est parfois incompréhensible de voir qu'il y a 2000 ans qu'on attend que Jésus revienne, beaucoup de versets rappellent que Dieu est bon et que Dieu est patient. Et voilà, ça explique quand même notre patience que l'on doit renouveler pour attendre le retour de Jésus. Alors, il est vrai aussi que Dieu ne nous préserve pas de tout. Et il y a aussi... c'était pour vous rappeler la différence entre l'ordre de Dieu qui était de donner à manger et le fait que Élie avait fait de manière différente. Je voulais lire quelques versets quand même dans le Nouveau Testament où Jésus nous rappelle que si nous étions du monde, dans Jean 15, verset 19, le monde aimerait son bien. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, dit Jésus, pour cette raison, le monde vous hait. Et également, au chapitre 17, les versets 14 à 16, Jésus s'adresse à Dieu, à son Père. Il leur dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc on ne peut peut-être pas demander n'importe quoi à Dieu. Moi j'avais rêvé ces derniers temps qu'un petit nuage vienne juste sur mon jardin, vous savez, déverser une pluie bienfaisante, au moins pour moi. Comme si j'étais le centre du monde. Je me rappelle d'une bande dessinée qui s'appelait Crise de foi, qui, sous une forme d'un dessin humoristique, disait « Si un chrétien d'un côté prie pour la pluie, n'y en a-t-il pas un ?» juste à côté, qui est en train de prier pour qu'il ne pleuve pas pour la fête des enfants ou pour le concert d'évangélisation. Hein. Donc ça ne se passe pas comme ça, dans certains cas. Voilà. Mais voilà, Dieu n'est pas dans chaque événement, mais il sait toutes choses et il voit toutes choses. Et il tient tout dans sa main. J'arrive pas des fois à l'accepter, j'arrive parfois pas à le comprendre, mais c'est cela. Et Dieu surtout est à nos côtés. Donc nous, ça m'est facile de le dire, tout va bien. Pensons aux chrétiens persécutés. Tahar nous rappelle parfois ce qui se passe en Algérie. Il ne suffit pas que nos présidents se rencontrent pour que tout aille bien pour les chrétiens. Donc pensons à eux. Voilà. Je vais finir encore par quelques versets, un peu pour arriver finalement un peu à une conclusion. Voilà, c'est un autre verset qu'on trouve dans la Bible, dans Matthieu 5, les versets 43 à 45. Et je vais surtout lire la fin. C'est Jésus qui nous exhorte à ne pas se contenter d'aimer ceux que je vois devant moi et à haïr mon ennemi, mais aimer vos ennemis et prier pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Voilà. Alors, ce qui est vrai, qu'il n'y a pas que la terre qui est assoiffée, il existe une sécheresse plus personnelle. Et je finirai par deux psaumes et un texte d'Ésaïe, au psaume 63, le verset 2. Dieu, C'est David qui prie dans un désert. C'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Donc, je crois que le désert l'a aidé à faire cette prière, mais parce qu'il savait aussi accepter de se regarder lui-même, de s'aimer lui-même, et donc de demander à Dieu l'aide dont il avait besoin. Et au psaume 42, le verset 2, « Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. » Et dans Ésaïe, au chapitre 55, verset 1, et Véronique l'a dit dans sa prière tout à l'heure, « Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. » Donc la conclusion, c'est vraiment que Dieu a une solution gratuite. Et si Pharaon a acheté son peuple par la main de Joseph, on peut se demander pourquoi, a acheté son peuple, leur bien, pour le prix de leur survie. Si les banquiers ont mis sur la paille des agriculteurs du Dust Bowl dans les années 30 aux USA, Dieu n'est pas ainsi avec nous. Son salut a été gratuit et son secours également est gratuit. Amen.